Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général, je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici avec vous. Monsieur le directeur général, c'était en 2012. Nous nous sommes rencontrés, c'était à l'Élysée, à une époque où le prix des céréales avait flambé. J'avais proposé l'organisation, dans le cadre du CSA, d'une réflexion sur la régulation des marchés des céréales, et vous l'aviez accepté. Et à partir de ce moment-là, nous avons eu une collaboration très étroite entre la France et mon ministère et la FAO. Et aujourd'hui, de voir autant de monde ici réuni, c'est une manière de nous féliciter mutuellement, d'avoir engagé ce travail en commun. L'agroécologie est un sujet de débat. Et c'est bien ainsi. Il y a un débat aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité. Il est posé à tous les acteurs, partout, dans tous les pays, de savoir si on sera capable de répondre aux grands défis qui sont posés à l'humanité tout entière. Grand défi, celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Le grand défi de l'évolution démographique du monde. Et donc le grand défi de l'alimentation du monde. Face à ces défis qui semblent contradictoires les uns avec les autres, s'il y a un débat qui est essentiel, c'est celui qui doit nous amener à faire converger, au travers d'un projet, les solutions à tous ces défis. L'agriculture comme la forêt sont au cœur de ces défis. D'abord parce que ce sont des activités humaines et partout dans le monde. Deuxièmement parce qu'elles occupent à elles deux la quasi-totalité des surfaces de la planète, excepté la surface maritime. Elles sont donc non pas un problème, mais une solution qui doit nous permettre de répondre aux défis que j'évoquais. La grande question qui nous est aussi posée dans le changement profond qui est en train de se produire, et si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est que dans des moments de l'histoire de l'humanité, il y a des moments où, culturellement, politiquement, les choses changent. Les paradigmes sont modifiés, les enjeux sont redéfinis. Aujourd'hui, à la FAO, à Rome, on est à un moment de cette histoire de l'humanité où on doit faire des choix majeurs, essentiels pour notre avenir collectif. Se replier pour trouver chacun des solutions dans chacun de ces pays et régler une part du destin de l'humanité, ou être capable de se rassembler pour répondre à l'ensemble des défis posés à toute l'humanité. C'est ça la question qui est posée. Et c'est pourquoi l'agroécologie, au sens où elle est à la fois un projet commun et collectif, mais qui s'appuie en même temps sur des expériences et des réalités toutes différentes selon les pays et selon les écosystèmes, est une manière d'aborder la grande question posée à toute l'humanité, sans jamais nier à chacune des parts de l'humanité sa légitimité, sa diversité. Et ça, je crois que par rapport aux années précédentes, à toutes ces... tous ces discours qui ont porté sur des grands messages globaux, standardisés, la question de combiner l'universel et le singulier, c'est une partie du sujet de l'agroécologie. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, chacun a sa part dans la connaissance qui doit permettre à l'humanité de trouver des solutions. Il n'y a rien de pire que de laisser penser que les solutions viendraient d'ailleurs, que les solutions seraient imposées par d'autres. Il faut d'abord accepter que chacun porte en lui, avec lui, une part de la solution. Et qu'après, bien sûr, d'autres peuvent venir aider. D'autres peuvent apporter des connaissances scientifiques. D'autres peuvent apporter des connaissances technologiques, techniques. Mais chacun doit être respecté. Et c'est un principe essentiel dans l'agroécologie. Chaque écosystème, avec les hommes dedans, c'est un écosystème qui a sa propre vérité. C'est un écosystème qui a sa propre validité sociale, culturelle, économique. Et si l'agroécologie a un sens, c'est qu'elle va s'appuyer sur cette diversité pour porter un projet commun, une ambition collective, un choix universel, un choix pour l'humanité, je le disais tout à l'heure. Pour cela, il faut de la technique, il faut des technologies, il faut des chercheurs, mais il faut aussi s'appuyer sur les connaissances de tous les agriculteurs partout dans le monde, qui ont acquis une expérience, qui connaissent leurs écosystèmes, et sur lesquels ce que l'on doit faire, c'est apporter le plus pour pouvoir installer une viabilité économique, la durabilité écologique, partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en France, et vous le rappeliez tout à l'heure où le constat a été fait de la disparition des oiseaux, je ne parle pas des abeilles, et de la biodiversité. L'enjeu de la biodiversité, c'est de sortir de ces modèles qui ont laissé penser qu'en utilisant beaucoup de chimie et beaucoup de phytosanitaires, on allait régler l'ensemble de la question alimentaire à l'échelle du monde. C'est une impasse. Il faut repartir à l'envers, repartir du terrain, repartir des écosystèmes, repartir de l'utilisation à notre profit de la biodiversité, des mécanismes de la nature, et venir ensuite corriger lorsque c'est nécessaire. Mais pas penser qu'on va tout corriger quand ce n'est pas nécessaire. Et ça, l'agroécologie, dans son principe, dans son essence, est un élément de la solution que j'évoquais tout à l'heure, celle qui doit combiner la lutte contre le réchauffement climatique avec le développement de la production agricole et alimentaire pour faire face à la démographie, avec aussi la nécessité que l'agriculture et la transformation agricole comme forestière permettent aussi à des hommes, à des femmes, jeunes en particulier, de pouvoir trouver dans une activité agricole et forestière des débouchés pour l'avenir. Les grandes questions qui sont posées, migratoires en particulier, aujourd'hui, on ne pourra pas les résoudre avec des murs. On ne pourra pas les résoudre en s'enfermant. On devra les résoudre, au contraire, encore une fois, en portant un projet à l'échelle universelle, à l'échelle de l'humanité, en permettant le développement, en permettant l'activité, en permettant à chacun de pouvoir trouver, là où il est, la capacité de se construire un destin et une vie. L'agroécologie, c'est de s'appuyer sur ces mécanismes naturels partout dans le monde. C'est d'y associer, je l'ai dit, la technique et la technologie. Mais dans cet ordre-là, pas dans l'autre, qui consiste à mettre toujours en avant la technique et la technologie avant les mécanismes naturels et les écosystèmes. Écosystèmes, connaissances locales, et ensuite technologie et science. Cet ordre-là est très important. Deuxièmement, je l'ai dit, le modèle qu'on a connu, qui s'est imposé aussi partout dans le monde, qui était beaucoup utilisateur de ce qu'on a appelé les inputs, les intrants, beaucoup de chimie, beaucoup de machines, qui a été le cœur de cette fameuse révolution verte qui a été portée à un moment par la FAO. Bien, ce modèle est arrivé au bout de son cycle. Et c'est bien que ça soit ici à la FAO qu'on ouvre un nouveau cycle, celui d'une révolution, comme le disait Michel Griffon, doublement verte, qui va chercher à s'appuyer sur la nature pour pouvoir développer la production agricole. C'est cette révolution doublement verte qu'on doit construire. C'est celle-là qui est au cœur des débats que vous devez avoir. Elle nécessite, je l'ai dit, des connaissances locales. Elle nécessite aussi des connaissances scientifiques, techniques, technologiques. Mais elle nécessite aussi, au niveau international, une capacité à gouverner l'ensemble à donner des objectifs, à faire en sorte que des politiques publiques partout puissent se mettre en œuvre pour pouvoir réaliser l'objectif universel que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là que les grandes instances internationales sont au cœur aussi de cette problématique. Elles sont là pour justement aider à faire en sorte que le débat ait lieu, mais qu'en même temps on puisse en décider des grandes orientations de politique publique qui vont permettre de réaliser les objectifs. Et à ce titre, je l'ai dit, la FAO a été le lieu de cette première révolution verte. Elle doit être le lieu de cette nouvelle révolution doublement verte. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça le débat que vous allez engager, que nous avons, cher directeur général, engagé. C'est ça le débat pour l'avenir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que pour résoudre les problèmes, il suffit de s'enfermer. Il suffit de construire des murs et de répondre à sa part d'humanité. Eh bien, si on a un message à faire passer aujourd'hui, c'est que nous, nous devons répondre aux défis de toute l'humanité. Merci.
Monsieur Graziano da Silva, Monsieur Gilbert Ungbo, Monsieur Stéphane Le Foll, Monsieur Braulio Ferreira, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues. C'est pour moi un grand défi de prendre la parole après Monsieur Le Foll. J'ai un petit peu peur de retomber peut-être dans une approche un petit peu trop technocratique. C'est peut-être l'influence de Rome, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour maintenir le débat vivant. Alors, les orientations en matière de politique, c'est un vaste thème que je vais essayer d'approcher en premier lieu comme président en charge du comité de l'agriculture de la FAO, puisque, comme l'a indiqué Monsieur le directeur général, les résultats de votre symposium seront discutés au niveau politique dans le cadre du comité de l'agriculture. J'interviens également comme représentant permanent de la Suisse à Rome. La transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables est en effet depuis le mois d'octobre 2017, suite à un référendum populaire, une obligation inscrite dans notre Constitution fédérale. Et donc une priorité de notre politique agricole domestique et de notre engagement international auprès des trois agences romaines, mais aussi dans le cadre de notre politique de coopération et de développement. Le débat politique en Suisse sur les enjeux et le futur de l'alimentation est très intense, puisque les citoyens devront, au cours des deux prochaines années, se prononcer sur quatre autres référendums populaires allant des aliments équitables à la souveraineté alimentaire, en passant par l'interdiction des pesticides de synthèse. Ce dernier point en particulier sera l'occasion de vérifier la volonté de la majorité des citoyens consommateurs de changer drastiquement l'agriculture conventionnelle. Comme vous le voyez, la Suisse est une sorte de laboratoire de la participation citoyenne quand il s'agit de discuter de l'avenir de l'alimentation. Finalement, j'espère pouvoir aussi apporter un peu de mon expérience acquise comme membre actif du groupe des Amis de l'agroécologie. Ce groupe a été mis sur pied en 2014 suite au premier symposium international. C'est un groupe informel de 16 amis aujourd'hui, pays engagés à promouvoir les approches agroécologiques et ouverts à tous nouveaux membres intéressés. Ça ne veut pas dire que nous partageons tous la même vision de l'agroécologie, mais nous sommes tous d'accord sur le rôle central que les approches agroécologiques peuvent jouer pour le futur de l'alimentation. Alors, il fonctionne essentiellement comme une plateforme d'échange et de discussion. Il organise régulièrement à la FAO des événements pour encourager le dialogue. Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous demain pour notre événement parallèle. Les trois orateurs précédents ont rappelé en détail la situation et les enjeux et défis actuels et futurs auxquels les systèmes agricoles et alimentaires sont confrontés. Ils partagent tous la même analyse. Ceci ne sera possible que par une transformation en profondeur des systèmes agricole et alimentaire conventionnelle vers plus d'efficience et de durabilité au service des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Depuis les années 90, la conférence de Rio et l'agenda 21, dont un chapitre traitait déjà du développement d'une agriculture plus durable, de plus en plus d'évidences et d'exemples concrets ont démontré le potentiel énorme des approches agroécologiques à cette transformation en profondeur, aussi bien au niveau de la productivité agricole que de la fourniture de services écosystémiques et de biens publics. Et ce, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays industriels. Ceci est très bien résumé et analysé dans le rapport publié en 2016 par le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Ce qui est nouveau, c'est que les approches agroécologiques, comme par exemple l'agriculture biologique, font aussi de plus en plus l'objet de publications dans des revues scientifiques référencées. En novembre 2017, la revue Nature a publié une étude d'un groupe international de scientifiques dont l'Institut de recherche sur la production biologique en Suisse et la FAO. Cette analyse critique et comparative basée sur différents scénarios impliquant l'agriculture conventionnelle avec une part croissante de production biologique montre de manière réaliste le rôle que l'agriculture biologique pourrait jouer pour nourrir durablement la planète, et ce, en combinaison avec d'autres mesures comme la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction de l'alimentation animale produite sur les terres arables et une diminution correspondante de la production et de la consommation de produits animaux. Alors, au vu de toutes ces évidences, pourquoi ce changement en profondeur n'a-t-il toujours pas lieu? Qu'est-ce qui freine le déploiement optimal du potentiel des approches agroécologiques? Suite à l'adoption de l'agenda 2030, on observe une prise de conscience croissante de la nécessité d'amener les modèles conventionnels vers plus de durabilité. Malheureusement, cela ne se traduit pas encore suffisamment dans les actions concrètes et les impacts sur le terrain. Dans cette salle, nous sommes, si ce n'est tous, du moins en grande majorité, convaincus, voire déjà des utilisateurs des approches agroécologiques. Mais soyons réalistes, ce n'est de loin pas le cas de la majorité des acteurs, décideurs et investisseurs qui pèsent aujourd'hui le plus sur le plan politique et économique. Alors, comment arriver à les intéresser et les amener à considérer et à adopter les approches agroécologiques comme une option prioritaire sur le moyen à long terme? Le document préparé par la FAO pour ce symposium fournit une bonne base de réflexion. J'aimerais, moi, me limiter à trois points. Premièrement, il faut démontrer les avantages économiques. Qu'est-ce que les approches agroécologiques vont me rapporter en termes de revenus? C'est souvent la question que se pose, par exemple, l'agriculteur. D'où l'importance de savoir mesurer les performances des systèmes, surtout les performances économiques. La réponse va évidemment changer que l'on soit un producteur du Nord, une petite exploitation familiale d'un pays en développement ou un décideur politique. Deuxièmement, il faut mettre en avant les opportunités offertes par l'agroécologie. Trois exemples. Tout d'abord, une augmentation constante de l'intérêt et de la demande de la part des consommateurs pour des produits de qualité sains, équitables et durables, aussi bien dans les pays à haut revenu que chez la classe moyenne urbaine des pays à moyen et bas revenus. Ensuite, le potentiel, et ça a déjà été mentionné, pour une augmentation de la productivité des petites exploitations familiales des pays en développement, et ce, à court terme, avec des investissements relativement raisonnables. Ce qui veut dire, par exemple, une utilisation plus efficiente et rationnelle des ressources de la coopération et de l'aide au développement. Finalement, l'utilisation des nouvelles technologies en soutien aux approches agroécologiques, par exemple dans le domaine de la digitalisation, de la communication ou de la miniaturisation, qui facilite les approches diversifiées, la mise en réseau, offre au secteur privé des opportunités de développer de nouveaux services et produits et sont attractifs pour les jeunes professionnels. Troisièmement, et ça a aussi été mentionné, il faut mettre en place un cadre favorable autour de l'agroécologie. Ici, j'aimerais insister en premier lieu sur la nécessité d'un changement au niveau des systèmes de recherche et d'innovation agricole pour répondre aux besoins des approches agroécologiques. Aujourd'hui, recherche et innovation restent en majorité fondées sur l'approche classique, basée sur la simplification et la spécialisation. Il faut investir dans les approches participatives du type co-innovation ou innovation locale, valorisant les connaissances et pratiques traditionnelles. Ensuite, il faut développer et renforcer les filières et les marchés pour les produits et les services fournis par les approches agroécologiques. Ceci passe notamment par une plus grande transparence des prix, reflétant tous les coûts de production, y compris les coûts liés aux externalités négatives. Finalement, il faut mobiliser les investissements publics et privés sur la base des principes pour des investissements agricoles responsables. Dans ce contexte, je me réjouis de l'initiative du Fonds pour l'agroécologie et de ses partenaires d'organiser un événement parallèle sur ce thème jeudi midi. Quelques mots maintenant sur le rôle des agences romaines dans le contexte de passage à l'échelle supérieure. J'étais très content d'entendre les déclarations du directeur de la FAO ou du FIDA. Comme ils l'ont mentionné, les trois agences doivent intégrer les approches agroécologiques dans leurs stratégies et programmes, aussi bien au niveau global qu'au niveau national, non seulement comme une option, mais comme une priorité. La FAO, elle, doit continuer à jouer le rôle de leadership au niveau global pour soutenir le développement des politiques publiques de soutien aux approches agroécologiques. Elle doit en particulier mettre l'accent sur le renforcement des activités normatives, comme l'a demandé la 40e session de la conférence, en développant les outils méthodologiques et indicateurs de référence pour mesurer la performance des systèmes sur les trois composantes de la durabilité. Deuxièmement, elle doit faciliter la mobilisation des acteurs non étatiques, en particulier les agriculteurs et le système privé, en facilitant les partenariats multi-acteurs. La FAO a déjà beaucoup d'expérience dans ce secteur. Et finalement, c'est seulement trois que j'ai sélectionnés sur la longue liste, elle doit offrir la plateforme de discussion et de négociation pour un développement harmonisé des stratégies et des politiques publiques et privées. Par rapport à ce dernier point, permettez-moi de relever quelques échéances importantes. En 2018, la FAO organisera un dialogue multipartenaire sur l'intégration de la biodiversité, un élément important, également un symposium sur l'innovation agricole au service des exploitations familiales. L'agroécologie doit être au centre de ces deux événements. Les comités techniques de la FAO se réuniront cette année pour préparer les décisions de la conférence de 2019 et le programme de travail. L'initiative de passage à l'échelle supérieure, Scaling Up, sera l'ordre du jour du comité de l'agriculture. Le défi sera d'arriver pour le comité à une vision stratégique cohérente autour du changement en profondeur de l'agriculture et de la transition qui puisse être présentée à la conférence pour adoption. Finalement, j'aimerais également mentionner l'axe de travail du comité de la sécurité alimentaire sur les approches agroécologiques et autres innovations pour une agriculture durable. En 2019, le comité de la sécurité alimentaire devra discuter et adopter les recommandations en matière de politique qui seront ressorties du rapport qui sera préparé par le groupe d'experts à haut niveau au cours des 12 prochains mois. Alors, vous avez vu un calendrier et un programme ambitieux. Ce symposium est une étape importante. Il offre un espace unique. Ce n'est pas une réunion intergouvernementale. Vous êtes là pour vous exprimer. Vous êtes là pour dire ce que nous ne pouvons toujours pas dire dans le cadre purement intergouvernemental. C'est vraiment un espace unique pour nourrir le débat politique, développer des idées et des propositions innovatrices, voire provocatrices, pour à la fois soutenir les systèmes agroécologiques existants, mais encore plus important, accélérer la transition. Un défi immense, mais surtout une énorme opportunité pour non plus seulement marcher, mais vraiment courir vers une transformation en profondeur des systèmes agricoles et alimentaires au service de l'agenda 2030 grâce aux approches agroécologiques. Merci pour votre attention et bon symposium.